¿Cómo podría yo tomar personalmente la dirección de un movimiento de emancipación?
Товарищи, рабочие крестьянские революции, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилось! Ура!
M'a donné raison, mais pas les hommes. Bon, ça, c'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Et alors, dénoncer avec violence, il suffit de dire simplement que vous allez tomber dans un précipice assez violent. Si vous dites, monsieur, avancez, je vous en prie, vous êtes sur une jolie pelouse et vous marchez gentiment devant vous, ne vous inquiétez pas du reste.
Là, chronique de
Monsieur
Sinalco. Bonjour Monsieur Sinalco.
Bonjour.
Aujourd'hui nous allons parler du temps et du travail.
Oui, et plus précisément du temps de travail dans un moment qui a caractérisé l'un des grands changements du rapport au travail en Occident. Je veux dire, le moment où le travail a commencé à se retrouver contraint non plus seulement par différents cycles de la nature, qu'il soit jour, saison ou année, mais par une mesure plus stricte et créée artificiellement par l'homme, celle de l'heure.
Ce moment, qu'on peut placer au XIVe siècle pour l'Occident médiéval, est caractérisé par l'historiographie comme passage d'un temps religieux à un temps laïque, n'est-ce pas ?
Effectivement. Ce qu'on peut dire sur le temps de travail dans la période qui précède ce moment, c'est qu'il répond à une division de la journée selon les heures de l'Église, ou du moins que les heures de l'Église soulignent le temps et la division jour-nuit. L'activité humaine se cale pour ainsi dire dans le temps du jour, indiqué approximativement par la cloche de l'Église, et par les heures canoniques de la tierce, qui correspond plus ou moins à 9h du matin, et des vêpres à 6h du soir. Ce temps de l'Église est celui de l'agriculteur qui varie selon les saisons. Il n'exige pas de mesure exacte du temps de travail, ni de lier la quantité produite à la quantité de temps.
Et qu'est-ce qui cause ce changement de paradigme, cette arrivée du temps laïque ?
Ce temps laïque, c'est le temps exigé par la société urbaine, c'est-à-dire par les conditions du travail urbain corporatif dès le XIVe siècle. C'est un temps calculé par l'horloge et en heures. C'est aussi et surtout un temps irréversible dans lequel ce qui est produit est du temps et de l'argent. C'est le temps du bourgeois.
C'est donc un temps qui s'exprime en heures par l'horloge de la ville.
C'est-à-dire qu'il s'exprime dans son commencement et sa fin par une cloche qui ne décrit plus une activité ecclésiastique, mais qui est, à proprement parler, une cloche de travail. L'horloge mécanique n'en est alors qu'à ses balbutiements, et bien qu'elle s'impose au XIVe siècle dans les zones urbaines, j'entends les territoires actuels de l'Italie du Nord et du Centre, la Catalogne, le sud de l'Angleterre, les Flandres, l'Allemagne et le nord de la France, elle n'est pas encore un moyen d'asservir les classes laborieuses à la minute près, comme elle le deviendra bientôt. Outre les pannes qu'elles subissent souvent, les horloges sont encore parfois des créations fabuleuses, leurs inventeurs des agents du diable. Non, le temps du travail se rythme alors à la cloche à main, mais à des heures fixes, et non plus à celles incertaines de la vie religieuse. La cloche, comme à Amiens en 1335, sonne pour le début du travail, puis lors de la pause du repas de midi, pour le retour au travail et finalement indique la fin du travail. Elle est installée sur le beffroi de la ville, mais diffère des cloches religieuses. C'est donc un appel au travail qui ne représente aucune nouveauté technique, mais une nouveauté sociale et culturelle, celle d'indiquer aux travailleurs des corporations urbaines quand commencer et quand terminer leur œuvre. L'horloge ne s'imposant en Occident que par la suite comme agent enfermant du temps de travail.
Alors, est-ce que cette apparition de la cloche de travail s'est faite sans heurte, Monsieur Sinalco ?
Par des documents, on peut remarquer en effet que le son de ces cloches ne s'est pas fait entendre et accepter sans révolte. À Thérouanne, en 1367 par exemple, promesse est faite par le doyen et le chapitre aux ouvriers, foulons et autres gens mécaniques que cesse à jamais la cloche des ouvriers, pour que, à cause de la sonnerie d'une cloche de ce genre, ne naisse pas de scandale et de conflit dans la ville de l'Église. Mais à la même époque, le bourgeois ne cède pas toujours, et on amende aussi les ouvriers qui n'arrivent pas à l'heure au travail, à Gand, par exemple, ou à Combines. Les ouvriers qui s'empareraient de la cloche pour faire sonner à d'autres fins que pour marquer la journée de travail, pour faire assemblée, par exemple, ou pour faire révolte, risquent jusqu'à la peine de mort. L'idée est bien d'imposer un temps de travail, et le même pour tous, à travers ces cloches de travail. Et on peut voir encore la parallèle entre la punition infligée aux moines en retard à la cloche de prière et celle infligée aux travailleurs en retard à son travail.
Quelles sont, au XIVe siècle, les autres revendications des ouvriers urbains ?
Si la cloche répond à un besoin d'encadrer le temps de travail par les donneurs d'ouvrage, les revendications des classes laborieuses vont vers une demande de plus de temps de travail. Comme dans une ordonnance d'Arras en 1315, il est demandé par les valets et foulons travaillant dans la draperie des journées plus longues et des salaires plus élevés. Cette demande suit d'une part le fait que les étoffes à fabriquer deviennent plus grandes et plus lourdes, mais aussi certainement une certaine crise des salaires causée par la hausse des prix et par la chute des salaires réels à cause des mutations monétaires de l'époque. Il semble que par la suite, au tournant du XIVe siècle vers le XVe siècle, quand l'idée d'un encadrement précis de la journée de travail fut communément admise en ville, les revendications des ouvriers se soient concentrées sur la durée du temps de travail et non directement sur le salaire. Réduire le temps de travail permet à cet effet d'augmenter le temps de repos ou temps libre et le temps de travail personnel ou au noir.
Et qu'en est-il du travail de nuit ?
Le travail de nuit, quelques rares corporations l'autorisent, celles des teinturiers, des huiliers, des ouvriers d'étain et de plomb. Si les offensives du travail de nuit se multiplient en Occident dès la fin du XIIIe siècle, il reste une sorte de spécialité urbaine, généralement d'ailleurs interdit. Le travail de nuit est par exemple supprimé en 1284 chez les ouvriers tondeurs de draps, réduisant leur journée de travail d'environ 4 heures. Le statut des potiers d'étain dit que la clarté de la nuit n'est mise suffisante pour qu'ils puissent faire bonne œuvre et loyale. Ainsi, à côté de la nécessité d'offrir du temps de repos aux ouvriers, la valeur du travail de nuit est mise en cause. La qualité de fabrication souffrirait du manque de lumière.
Quel est au fond le temps de travail pour un ouvrier dans l'ère pré-industrielle ? Est-il au fond enviable par les travailleurs contemporains ?
L'historiographie indique comme norme du temps de travail au XIIIe siècle, qui se rythmait donc avec apparition et disparition du soleil, de 7 à 9 heures en hiver et de 10 à 14 heures en été, selon les corps de métier et déductions faites des heures de repas. Une journée de travail a priori plus longue que celle de l'ouvrier du XIXe siècle, mais aussi plus irrégulière malgré l'apparition des cloches de travail. Il faut en revanche faire peser dans la balance les jours de congé auxquels les valets et autres artisans avaient droit. Les ouvriers ne travaillent ni les dimanches, ni les jours de fêtes religieuses ou de corporations, ce qui donne une suspension totale théorique du travail durant 80 à 85 jours par année. Ils travaillent théoriquement sur un temps réduit, les samedis et les veilles de jours de fêtes religieuses, soit environ 70 jours par an.
C'est effectivement une description fort théorique et normalisée de ce temps qui pouvait être consacré au travail. D'autant qu'il y a encore au Moyen-Âge un hiatus entre le temps consacré au travail et le salaire perçu. Je veux dire que le matraquage idéologique sur le fait que le temps non travaillé est du temps perdu n'a pas encore de prise sur les ouvriers.
Oui, oui. Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. Celui qui, pouvant gagner 10 shillings par jour en travaillant, se promène ou reste dans sa chambre à paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, sa paresse ne lui coûte que 6 pence, celui-là ne doit pas se borner à compter cette seule dépense. Il a dépensé en outre, jeté plutôt, 5 autres shillings. Ce célèbre sermon de Benjamin Franklin, caractéristique entre tous de l'esprit du capitalisme pour Weber, ne pourrait guère avoir de prise au Moyen-Âge. D'autant plus, dans un temps rural où le temps libre est une notion vide de sens, et le temps de travail est partout tant que le soleil brille. Si le passage du temps ecclésiastique au temps laïque par la cloche de travail a une incidence importante sur la vie des classes laborieuses, elle est surtout une première banderie dans l'asservissement des masses à l'espace du temps payé. Et elle est intrinsèquement liée au nouvel esprit marchand qui fait peser la marchandise sur la balance des heures irréversibles.
Merci, monsieur Sinalco.
Merci, monsieur Sinalco.